Jules Verne, la destinée de Jean Morenas. Ce jour-là, vers la fin du mois de septembre, où il y a déjà cela bien longtemps, un riche équipage s'arrêta devant l'hôtel du vice-amiral commandant la place de Toulon. Un homme de 40 ans environ, solidement charpenté, mais d'ailleurs assez vulgaire, en descendit et fit passer au vice-amiral, outre sa carte, des lettres d'introduction signées de noms tels que l'audience qu'il sollicitait lui fut immédiatement accordée. « C'est à M. Bernardon, l'armateur bien connu à Marseille, que j'ai l'honneur de parler, » demanda le vice-amiral quand son visiteur eut été introduit. « À lui-même, » répond celui-ci. « Veuillez prendre un siège, » reprend le vice-amiral, « et me croire tout à votre service. Je vous en sais gré, amiral, » remercia M. Bernardon, « mais je ne crois pas que la requête que j'ai à vous présenter soit de celle qu'il vous est difficile d'accueillir favorablement. Et de quoi s'agit-il ? Bien, tout bonnement d'obtenir l'autorisation de visiter le bagne. Mais rien de plus simple, en effet, approuva le vice-amiral. Et il était superflu de vous munir des lettres de recommandation que vous m'avez transmises. Un homme portant votre nom n'a que faire de ses passeports de courtoisie. M. Bernardon s'inclina, puis ayant de nouveau exprimé sa gratitude sans qu'il ait formalités à remplir. Il n'y en a pas, lui fut-il répondu. Allez trouver le major général avec ce mot de moi et satisfaction vous sera donnée sur le champ. M. Bernardon prit congé, se fit conduire près du major général et obtint aussitôt la permission d'entrer dans l'arsenal. Un planton le mena chez le commissaire du bagne qui s'offrit de l'accompagner. Le Marseillais, tout en remerciant chaleureusement, déclina l'offre qui lui était faite et manifesta le désir d'être seul. « Oh, comme il vous plaira, monsieur, » accorda le commissaire. Il n'y a donc aucun inconvénient à ce que je circule librement dans l'intérieur du bagne. Aucun. Ni à ce que je communique avec les condamnés, mais pas davantage. Les adjudants seront prévenus et ne vous susciteront pas de difficultés. Mais permettez-vous cependant de vous demander dans quelle intention vous faites cette visite peu réjouissante au demeurant. Dans quelle intention ? « Oui, serait-ce pure affaire de curiosité, ou poursuivez-vous un autre but, un but philanthropique, par exemple ?»« Philanthropique, précisément, » repartit vivement M. de Bernardon. « Oh, merveille !» dit le commissaire, « mais nous sommes accoutumés à ces visites qu'on voit d'un fort bon œil, en haut lieu. Le gouvernement, recherchant sans cesse des améliorations à introduire dans le régime des bagnes, beaucoup ont déjà été réalisés. » M. Bernardon approuva du geste sans répondre, en homme que ses considérations n'intéressaient pas autrement. Mais le commissaire, tout plein de son sujet, et trouvant l'occasion propice à une déclaration de principe, ne remarqua pas ce désaccord entre l'indifférence de son visiteur et le but avoué de la démarche de celui-ci, et poursuivit imperturbablement. La juste mesure est bien difficile à garder en pareille matière. S'il ne faut pas outrer les rigueurs de la loi, il convient aussi de se tenir en garde contre les critiques sentimentaux qui oublient le crime en voyant le châtiment. Toutefois, nous ne perdons jamais de vue ici que la justice doit être modérée. « De tels sentiments vous honorent, » répondit M. Bernardon. « Et si mes remarques peuvent vous intéresser, j'aurai plaisir à vous communiquer celles que la visite du bagne m'aura suggérées. » Les deux interlocuteurs se séparèrent, et le Marseillais, muni d'une tasse d'un laissez-passer, en bonne forme, se dirigea du côté du bagne. Le port militaire de Toulon se composait principalement de deux immenses polygones appuyant au quai leur côté septentrional. L'un, désigné sous le nom de d'Arse-Neuve, était situé à l'ouest de l'autre nommé d'Arse-Vieille. La périphérie de ces enceintes, véritablement prolongement des fortifications de la ville, était marquée par des digues assez larges pour supporter de longs bâtiments, ateliers des machines, casernes, magasins de la marine, etc. Chacune de ces darses, qui existent encore aujourd'hui, a dans la partie sud une ouverture suffisante pour le passage des vaisseaux de haut bord. Elles juste aisément fait des bassins à flot, si la constance du niveau de la Méditerranée, qui n'est pas sujette à des marées appréciables, n'avait rendu leur fermeture inutile. À l'époque des événements qui vont être racontés, la d'Arse-Neuve était bornée à l'ouest par les magasins et le parc d'artillerie, et au sud, à droite de l'entrée et qui donne dans la pente petite rade, par des bagnes maintenant supprimées. Et ceci comprenait deux bâtiments servissant à angle droit. Le premier, en avant de l'atelier des machines, était exposé au midi. Le second regardait la vieille barse et se continuait par les casernes et l'hôpital. Indépendamment de ces constructions, il existait trois bagnes flottants où logeaient les condamnés à terme, tandis que les condamnés à vie étaient logés sur la terre ferme. S'il est un endroit du monde où l'égalité ne doit pas régner, c'est à coup sûr au bagne. En rapport avec la grandeur des crimes et le degré de perversité des esprits, l'échelle des pénalités devrait impliquer des distinctions de casque et de rang. Or, il est loin d'en être ainsi. Les condamnés de tout âge et de tout genre sont honteusement mêlés. Et de cette déplorable promiscuité, il ne peut résulter qu'une corruption hideuse et la contagion du mal exerce ses ravages parmi ces masses gangrenées. Au moment où débute ce récit, le bagne de Toulon contenait près de 4000 forçats. Les directions du port, des constructions navales, de l'artillerie, du magasin général, des constructions hydrauliques et des bâtiments civils en occupaient 3000, auxquels étaient réservés les travaux les plus pénibles. Ceux qui ne pouvaient trouver place dans ces 5 grandes divisions étaient employés dans le port, au lestage, au délestage et à la remorque des navires, au transport des boues, au débarquement et à l'embarquement des munitions et des vivres. D'autres étaient infirmiers, employés spéciaux ou condamnés à la double chaîne pour cause de tentatives d'évasion. Depuis assez longtemps, lors de la visite de M. Bernardon, on n'avait enregistré aucun incident de cette nature, et pendant plusieurs mois, le canon d'alarme n'avait pas retenti dans le port de Toulon. Ce n'est pas que l'industrieux amour de la liberté se fût affaibli dans le cœur des condamnés, mais le découragement semblait avoir alourdi leurs chaînes. Quelques gardiens, convaincus d'incurie ou de trahison, ayant été renvoyés de la chiourme, une sorte de point d'honneur rendait plus sévère et plus méticuleuse la surveillance des autres. Le commissaire du bagne se félicitait fort de ce résultat, sans se laisser endormir dans une trompeuse sécurité, car à Toulon, les évasions étaient plus fréquentes et plus faciles qu'en tout autre port de répression. Midi et demi sonnait à l'horloge de l'arsenal lorsque M. Bernardon atteignit l'extrémité de la Darse-Neuve. Le quai était désert. Une demi-heure plus tôt, la cloche avait appelé dans leurs prisons respectives les forçats au travail depuis l'aube. Chacun d'eux avait alors reçu sa ration. Les condamnés à perpétuité étaient remontés sur leur banc, et un garde les y avait aussitôt enchaînés, tandis que les condamnés à temps pouvaient librement circuler dans toute la longueur de la salle. Au coup de sifflet de l'adjudant, il s'était accroupi autour des gamelles contenant une soupe faite toute l'année de fèves sèches. Les travaux seraient repris à 1 heure pour n'être abandonnés qu'à 8 heures du soir. On ramènerait alors les condamnés à leur prison où, pendant quelques heures de sommeil, il leur serait enfin loisible d'oublier leur destin. Monsieur Bernardon profita de l'absence des forçats pour examiner la disposition du port. Il est à supposer toutefois que le spectacle ne l'intéressait que médiocrement, car il ne tarda pas à manœuvrer de façon à se trouver à proximité d'un adjudant auquel il adressa sans plus de façon. À quelle heure, monsieur, les prisonniers reviennent-ils au port? À 1 heure, répondit l'adjudant. Et sont-ils tous réunis ou indistinctement soumis aux mêmes travaux? Non, pas, non, il y en a qu'on emploie des industries particulières, sous la conduite de contremaîtres, et dans les ateliers de serrurerie, corderie, fonderie, qui exigent des connaissances spéciales, se rencontrent d'excellents ouvriers. Ils y gagnent leur vie, certes. Mais dans quelle mesure? Oh, c'est selon. À l'heure, la journée peut leur rapporter de 5 à 25 centimes. La tâche peut en produire jusqu'à 30. Ont-ils le droit d'employer ces quelques soins à sous à l'amélioration de leur sort? Oui, répondit l'adjudant. Ils peuvent acheter du tabac, car malgré les règlements contraires, on tolère qu'ils fument. Pour quelques centimes, ils peuvent aussi recevoir des portions de ragoût ou de légumes. Les condamnés à vie et les condamnés à temps ont-ils le même salaire? Non, ces derniers ont un supplément d'un tiers. On leur garde jusqu'à l'expiation de leur peine. Ils en reçoivent alors le montant, afin qu'ils ne soient pas dans un complet dénuement au sortir du bagne. Ah, fit simplement M. Bernardon, qui parut s'absorber dans ses pensées. Ma foi, monsieur, reprit l'adjudant, ils ne sont pas tellement malheureux. Si par leur faute ou leur tentative d'évasion, ils n'augmentaient pas d'eux-mêmes la sévérité du régime, ils seraient moins à plaindre que beaucoup d'ouvriers des villes. La prolongation de peine, demanda le Marseillais, dont la voix sembla un peu altérée, n'est-elle donc pas la seule punition qu'on leur inflige en cas de tentative d'évasion? Non, non, ils ont droit aussi à la bastonnade et à la double chaîne. La bastonnade? Répéta M. Bernardon. Oui, qui consiste en coups sur les épaules, de 15 à 60, suivant le cas, appliqués avec une corde goudronnée. Et sans doute toute fuite devient impossible pour un condamné mis à la double chaîne. À peu près, répondit l'adjudant. Les forçats sont alors attachés au pied de leur banc et ne sortent jamais. Dans ces conditions, une évasion n'est pas chose facile. Ah, c'est donc pendant les travaux qu'ils s'échappent le plus aisément. Sans doute. Les couples, quoique surveillés par un garde-chiourme, ont une certaine liberté qu'exige leur travail. Et telle est l'habitude de ces gens-là, qu'en dépit d'une surveillance active, en moins de 5 minutes, la chaîne la plus forte est coupée. Et lorsque la clavette vibre, rivée dans le bouchon mobile, est trop dure, ils gardent l'anneau qui les entoure aux jambes et rompent le premier maillon de leur chaîne. Beaucoup de forçats employés aux ateliers de serrurerie y trouvent sans peine les outils dont ils ont besoin. Souvent, la plaque en fer blanc qui porte leur numéro leur suffit. S'ils parviennent à se procurer un ressort de montre, le canon d'alarme ne tarde pas à tonner. Enfin, ils ont 1 000 ressources et un condamné n'est pas vendu moins de 22 de ses secrets pour se soustraire à une bastonnade. Mais où peuvent-ils cacher leurs instruments? Oh, partout et nulle part! Un forçat s'était taillé des fentes sous les aisselles et glissait de petits morceaux d'acier entre chair et peau. Dernièrement, j'ai confisqué à un condamné un panier en paille dont chaque brin renfermait des lames, des limes et des scies imperceptibles. Rien n'est impossible, monsieur, à des hommes qui veulent reconquérir leur liberté. À ce moment, 1 heure sonna. L'adjudant salua monsieur Bernardon et se rendit à son poste. Les forçats sortaient alors du bagne, les uns seuls, les autres accouplés deux à deux, sous la surveillance des gardes-chiourme. Bientôt, le port retentit du bruit des voix, du choc des fers, des menaces des argousins. Dans le parc d'artillerie où le hasard le conduisit, monsieur Bernardon trouva affiché le code pénal de la chiourme. Sera puni de mort tout condamné qui frappera un agent, qui tuera son camarade, qui se révoltera ou provoquera une révolte. Sera puni de 3 ans de double chaîne le condamné à vie qui sera tenté de s'évader, de 3 mois de prolongation de peine le condamné à temps qui aura commis le même crime, et d'une prolongation déterminée par un jugement. Tout forçat qui volera une somme au-dessus de 5 francs sera puni de la bastonnade tout condamné qui aura brisé ses fers ou employé un moyen quelconque pour s'évader, sur lequel il sera trouvé des investissements, qui volera une somme au-dessus de 5 francs, qui s'enivrera, qui jouera à des jeux de hasard, qui fumera dans le port, qui rendra ou dégradera ses hardes, qui écrira sans permission, sur lequel il sera trouvé une somme au-dessus de 10 francs, qui battra son camarade, qui refusera de travailler ou se montrera insubordonné. Ayant lu, le Marseillais demeura pensif. Il fut tiré de ses réflexions par l'arrivée d'une équipe de galériens. Le port était en pleine activité. Le travail se distribuait sur tous les ponts. Les contremaîtres faisaient entendre çà et là leur voix rude. 10 couples pour Saint-Mandrier. 15 chaussettes pour la corderie. 20 coupes à la branture. Un renfort de 6 rouges au bassin. Les travailleurs demandés se dirigèrent aux endroits désignés, excités par les injures des adjudants et souvent par le redoutable bâton. Le Marseillais considérait attentivement les galériens qui défilaient devant lui. Les uns s'attelaient à des charrettes puissamment chargées, les autres transportaient sur leurs épaules de lourdes pièces de charpente, empilaient et déblayaient le bois de construction ou remorquaient des bâtiments à corrèles. Les forçats étaient indistinctement vêtus d'une casaque rouge, d'un gilet de même couleur et d'un pantalon de grosse toile grise. Les condamnés à vie portaient un bonnet de laine entièrement vert. À moins de capacités particulières, ils étaient employés aux plus rudes travaux. Les condamnés suspects, à raison de leur vicieux instinct ou de leur tentative d'évasion, étaient coiffés d'un bonnet vert bordé d'une large bande rouge. Et aux condamnés à temps réduit était réservé le bonnet uniquement rouge, agrémenté d'une plaque de la fer-blanc portant le numéro d'immatriculation de chaque forçat. Ce sont ces derniers que M. Bernardon examinait avec le plus d'attention. Les uns enchaînés deux à deux avec des fers de 8 à 22 livres, la chaîne partant du pied de l'un des condamnés remontait à sa ceinture où elle était fixée, et allait s'attacher à la ceinture, puis au pied de l'autre. Ces malheureux se nommaient plaisamment les chevaliers de la guirlande. D'autres ne portaient qu'un anneau et une demi-chaîne de 9 à 10 livres, ou même un seul anneau appelé chaussette, pesant de 2 à 4 livres. Quelques galériens redoutables avaient le pied pris dans un martinet, fermement en forme de triangle, qui, rivé à chacun de ses extrémités autour de la jambe et trempé d'une manière spéciale, résiste à tous les efforts de rupture. M. Bernardon, interrogeant tantôt les forçats, tantôt les gardes-chiourme, parcourut les divers travaux du port. Devant lui se déroulait un navrant tableau bien propre à émouvoir le cœur d'un philanthrope. Pourtant, en vérité, il n'avait pas l'air de les voir. Sans s'arrêter à l'ensemble de la scène, ses yeux furetaient de tous côtés, dénombrant les forçats l'un après l'autre, comme si dans cette foule lamentable, il eût cherché quelqu'un qui ne l'attendait pas. Mais la recherche se prolongeant en vain, et par instant l'inquiéteur visiteur ne pouvant pas se défendre du geste de découragement. Le hasard de la promenade finit par le conduire du côté de la mâture. Et soudain il s'arrêta sur place, et ses yeux se fixèrent sur l'un des hommes attelé au cabestan. De l'endroit où il se trouvait, il pouvait voir le numéro de ce galérien, le numéro 2224, gravé sur une plaque de fer blanc, fixée au bonnet rouge des condamnés à temps. Le numéro 2224 était un homme de 35 ans, solidement bâti. Sa figure était franche et exprimait à la fois l'intelligence et la résignation. Non par la résignation de la brute dont un travail dégradant a annihilé le cerveau, mais l'acceptation réfléchie d'un malheur inévitable, nullement incompatible avec la survivance de l'énergie intérieure, ainsi qu'en témoignait la fermeté de son regard. Il était accouplé à un vieux condamné qui, plus endurci et plus bestial, contrastait fortement avec lui, et dont le front déprimé ne devait abriter que d'abjectes pensées. Les couples hissaient alors les bâmas d'un vaisseau nouvellement lancé, et, pour mesurer leur effort, ils chantaient la chanson de la veuve. La veuve, c'est la guillotine, veuve de tout ce qu'elle tue. « Oh, 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 Jean-Pierrot, fais toilette !» Vla, vla, barbier, oh, 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 Jean-Bierre, oh, vla, charrette, ah, 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 fauché, cola. M. Bernardon attendit patiemment que les travaux fussent interrompus. Le couple qui l'intéressait profita du répit pour se reposer. Le plus vieux des deux forçats s'étendit de tout son long sur le sol, le plus jeune s'appuyant sur les pattes d'une ancre resta debout. Le Marseillais s'approcha de lui. Mon ami, lui dit-il, je voudrais vous parler. Pour s'avancer vers son interlocuteur, le numéro 2224 dut tendre sa chaîne dont le mouvement tira le vieux forçat de sa somnolence.
Eh donc, fit-il, vas-tu te dire tranquille que tu vas nous faire serrer par les renards?
Tais-toi, Romain, je veux parler à ce monsieur.
« Eh donc, je te dis, et un peu ta chaîne par le bout. »«
File. »«
Non, non, j'en braque ma moitié. »« Romain, Romain, file numéro 2224, qui commençait à se fâcher. »« Eh bien, jouons là, dit Romain, en sortant de sa poche un jeu de cartes crasseuses. »«
Ça va, répliqua le plus jeune condamné. » La chaîne des deux forçats comportait 18 maillons de 6 pouces. Chacun en possédait 9 et par conséquent, disposait d'un rayon correspondant de liberté. M. Bernardon s'avança vers Romain. « Je vous achète votre part de chêne, dit-il. Y a-t-il grand ?» Le négociant prit 5 francs dans sa bourse. « Une thune ? » s'écria le vieux forçat. « Bon, c'est dit. » Il se saisit de l'argent qui disparut, on ne sait où. Puis, développant ses maillons qu'il avait enroulés devant lui, il reprit sa place et se coucha le dos au soleil. « Que me voulez-vous ? » demanda le numéro 2224 au Marseillais. Celui-ci, le regardant fixement, prononça « Vous vous nommez Jean Morenas. Vous êtes condamné à 20 ans de galère pour meurtre et vol qualifié. Et actuellement, vous avez fait la moitié de votre peine. »«
C'est vrai ? » dit Jean Morenas.
Vous êtes le fils de Jean Morenas, du village de Sainte-Marie-des-Maures.
Ma pauvre bonne femme de mère, dit le condamné tristement.
M'en parlez plus, elle est morte. Depuis 9 ans, dit M. Bernardon.
C'est encore vrai, mais qui donc êtes-vous, monsieur, pour connaître si bien mes affaires?
Que vous importe, répliqua M. Bernardon. L'essentiel est ce que je veux faire pour vous. Écoutez. Et veillons à ne pas casser trop longtemps, causer trop longtemps ensemble. D'ici 2 jours, préparez-vous à fuir. Achetez le silence de votre compagnon. Promettez, et je tiendrai vos promesses. Quand vous serez prêt, vous recevrez les instructions nécessaires. À bientôt.
Le Marseillais continua tranquillement son inspection, laissant le condamné stupéfait de ce qu'il venait d'entendre. Il fit quelques tours dans l'arsenal, visita divers ateliers et rejoignit bientôt son équipage dont les chevaux l'emportèrent au grand trot. 15 ans avant le jour où M. Bernardon devait avoir, avec le forçat 2224, ce bref dialogue dans le bagne de Toulon, la famille Morenas, composée d'une veuve et de ses 2 fils, Pierre, alors âgé de 25 ans, et Jean de 5 ans plus jeune, vivaient heureuses au village de Sainte-Marie-des-Maures. Les jeunes gens exerçaient l'un et l'autre le métier de menuisier, et tant sur place que dans les villages environnants, le travail ne leur manquait pas. Tous deux également habiles, ils étaient également recherchés. Inégale, par contre, était la place qu'ils occupaient dans l'estime publique, et il faut reconnaître que cette différence de traitement était justifiée. Tandis que le cadet, assidu à l'ouvrage et adorant passionnément sa mère, eût pu servir de modèle à tous les fils, l'aîné ne laissait pas de se permettre quelques incartades de temps à autre. Violent, la tête près du bonnet, il était souvent, après boire, le héros de querelles, voire de rixes, et sa langue lui faisait encore plus de mal que ses actes. Il se répandait couramment, en effet, en propos inconsidérés. Il maudissait son existence bornée dans ce petit coin de montagne et proclamait son désir d'aller sous d'autres cieux conquérir une fortune vite acquise. Or, il n'en faut pas plus pour inspirer de la méfiance aux âmes traditionnelles des paysans. Toutefois, les griefs qu'on pouvait élever à son encontre n'étaient pas bien graves. C'est pourquoi, tout en accordant à son frère une plus entière sympathie, on se contentait d'ordinaire de le considérer comme un cerveau brûlé, aussi capable du bien que du mal, selon les hasards que lui offrait l'existence. La famille Morenas était donc heureuse en dépit de ses légers nuages. Son bonheur, elle le devait à sa parfaite union. Fils, les 2 jeunes gens se méritaient en somme aucune critique sérieuse. Frères, ils s'aimaient de tout leur cœur et qui eût attaqué l'un aurait eu 2 adversaires à combattre. Le premier malheur qui frappa la famille Morenas fut la disparition du fils aîné. Le jour même où il atteignait 25 ans, il partit, comme de coutume à son travail, qu'il appelait ce jour-là dans un village voisin.
Le soir, sa mère et son frère attendirent vainement son retour. Pierre Morenas ne revint pas. Que lui était-il arrivé? Avait-il succombé dans une de ses habituelles batteries? Avait-il été victime d'un accident ou d'un crime? S'agissait-il simplement d'une fugue? Aucune réponse ne devait jamais être faite à ces questions. Le désespoir de la mère fut poignant. Puis le temps fit son œuvre et peu à peu, l'existence reprit son paisible cours. Graduellement, soutenue par l'amour de son second fils, Madame Morenas connut cette mélancolie résignée qui est la seule joie permise au cœur meurtri par le malheur. 5 années s'écoulèrent ainsi, 5 années pendant lesquelles le dévouement familial de Jean Morenas ne se démentit pas un instant. Et ce fut à l'expiration de la dernière de ces 5 années, au moment où celui-ci atteignait à son tour 25 ans, qu'un deuxième et plus terrible malheur fondit sur cette famille déjà si cruellement éprouvée. À quelque distance de la maisonnette qu'elle habitait, le propre frère de la veuve, Alexandre Tisserand, tenait l'unique auberge du village. Avec l'oncle Cendre, ainsi que Jean avait coutume de l'appeler, vivait sa filleule Marie. Bien longtemps auparavant, il avait recueilli à la mort des parents de sa fillette. Entrée dans l'auberge, elle n'en était plus sortie. Aidant son bienfaiteur et parrain dans l'exploitation de la modeste hôtellerie, elle y avait vécu, franchissant successivement les étapes de l'enfance et de l'adolescence. Et au moment où Jean Morenas atteignait 25 ans, elle en avait 18, et la fillette de jadis était devenue une jeune fille aussi douce et tendre que jolie. Elle et Jean avaient grandi côte à côte. Ils s'étaient divertis ensemble aux jeux de l'enfance, et la vieille auberge avait maintes fois retenti de leurs ébats. Puis, par degrés, les distractions avaient changé de nature, en même temps que se modifiait lentement, tout au moins dans le cœur de Jean, l'enfantine amitié d'autrefois. Et un jour vint où Jean aima comme une fiancée celle qu'il avait jusqu'alors traitée en sœur chérie. Il l'aima selon son honnête nature, ainsi qu'il aimait sa mère, avec la même abnégation, avec le même élan, dans un pareil don de tout son être. Il garda pourtant le silence et ne dit rien de ses projets à celle dont il souhaitait faire sa femme. C'est, ou il ne comprenait que trop, que la tendresse de la jeune fille n'avait pas évolué comme la sienne. Alors que son amitié fraternelle s'était graduellement transformée en amour, le cœur de Marie était resté le même. Avec la même tranquillité, ses yeux regardaient le compagnon de son enfance, sans que nul trouble nouveau en obscurcit le pur azur. Conscient de ce désaccord, Jean gardait donc le silence et cachait son espérance secrète, au grand chagrin de l'oncle Cendre, qui, professant pour son neveu la plus entière estime, eût été heureux de lui confier à la fois sa filleule et les quelques sous amassés en 40 ans d'un travail opiniâtre. L'oncle ne désespérait pas, cependant. Tout pouvait s'arranger. Marie était encore bien jeune. L'âge aidant, elle reconnaîtrait les mérites de Jean Morenas et celui-ci hardi formulerait alors sa demande qui serait favorablement accueillie. Et les choses en étaient là quand un drame imprévu bouleversa Sainte-Marie des Maux. Un matin, l'oncle Cendre fut trouvé mort, étranglé, devant son comptoir, dont le tiroir avait été vidé jusqu'à la dernière piécette. Quel était l'auteur de ce meurtre? La justice l'eût peut-être longtemps cherché en vain, si le mort lui-même n'avait pris soin de le désigner. Dans la main crispée du cadavre, on trouva en effet un papier froissé, sur lequel, avant d'expirer, Alexandre Tisserand avait tracé ces mots, c'est mon neveu qui... Il n'avait pas eu la force d'en écrire davantage, et la mort avait arrêté sa main au milieu de la phrase accusatrice. Cela d'ailleurs suffisait amplement. Alexandre Tisserand, ne possédant qu'un unique neveu, aucune hésitation n'était possible. Le crime fut reconstitué sans peine. La veille au soir, il n'y avait personne dans l'auberge. L'assassin était donc venu du dehors, et il devait être bien connu de la victime, puisque celle-ci, très méfiante de son naturel, avait ouvert sans difficulté. Il était également certain que le crime avait été commis de bonne heure. Alexandre Tisserand était encore habillé. À en juger par des comptes inachevés restés sur le comptoir, il était en train de vérifier sa recette au moment où son visiteur était survenu. En allant ouvrir, il avait emporté machinalement le crayon dont il se servait et dont il devait ensuite faire usage pour désigner son meurtrier. Ce dernier avait, à peine entré, saisi la victime par le cou et l'avait terrassée. Le drame avait dû se dérouler en quelques minutes. Il ne subsistait en effet aucune trace de lutte, et Marie, dans sa chambre assez distante, il est vrai, mais n'avait rien entendu, aucun bruit. Estimant l'aubergiste mort, l'assassin avait vidé le tiroir, consciencieusement fouillé la chambre à coucher, ainsi qu'en témoignaient le lit retourné et les armoires bouleversées. Enfin, son butin recueilli, il s'était empressé de fuir sans laisser aucune trace de nature à le compromettre. Il le supposait du moins, mais le misérable avait compté sans la justice immanente. Celui qu'il croyait mort vivait encore et avait retrouvé quelques minutes de conscience. Il avait eu la force de tracer ces quatre mots qui allaient orienter les recherches et qu'un ultime spasme de l'agonie avait tragiquement interrompu. Dans le village, ce fut une stupeur. Jean Morena, ce bon ouvrier, ce bon fils, un assassin ! Il fallait bien cependant se rendre à l'évidence, et l'accusation du mort était trop formelle pour permettre le doute. Tel fut du moins l'avis de la justice. Malgré ses protestations, Jean Morenas fut arrêté, jugé et condamné à 20 ans de galère. Ce drame monstrueux fut le coup de grâce pour sa mère. À partir de ce jour, elle déclina rapidement et, moins d'un an plus tard, elle suait dans la tombe son frère assassiné. Le sort impitoyable la faisait mourir trop tôt. Elle disparaissait à l'instant où, après tant d'épreuves, une joie allait enfin lui advenir. La terre était à peine retombée sur son cercueil que son fils aîné Pierre reparaissait dans le pays. Mais d'où venait-il? Qu'avait-il fait pendant les 6 années qu'avait duré son absence? Quelle contrée avait-il parcouru? Dans quelle situation entrait-il au village? Oh, il ne s'expliqua pas là-dessus, et quelle que fût la curiosité publique, qu'un jour arriva où de guerre lasse, on cessa de se poser ces questions. Au reste, il n'avait pas fait fortune au sens complet du mot. Il semblait du moins qu'il ne fût pas revenu dépourvu. Il n'exerçait en effet que d'une manière intermittente son ancien métier de menuisier, et 2 années durant, il vécut presque en rentier à Sainte-Marie-des-Maures, ne s'absentant que rarement pour aller à Marseille, où, disait-il, l'appelait ses affaires. Pendant ces 2 années, le plus clair de son temps, il le passa non pas dans la maison qu'il avait héritée de sa mère, mais à l'auberge de l'oncle Sandre, devenue propriété de Marie et que celle-ci, depuis la mort tragique de son parrain, gérait avec l'aide d'un valet. Ainsi qu'il était aisé de le prévoir, une idylle se noua peu à peu entre les 2 jeunes gens. Ce que n'avait pu faire la calme énergie de Jean, la faconde et le caractère un peu brutal de Pierre le firent. À l'amour grandissant de celui-ci, Marie répondit par un semblable amour. Et 2 ans après la mort de la veuve Morenas, 3 ans après le meurtre de l'oncle Sandre et la condamnation de l'assassin, le mariage des deux jeunes gens fut célébré. 7 années s'écoulèrent pendant lesquelles 3 enfants leur naquirent. Le dernier, 6 mois, à peine avant le jour où commence ce récit. Heureuse épouse, heureuse mère, Marie avait alors vécu 7 années de bonheur. Elle eût été moins heureuse si elle avait pu lire dans le cœur de son mari, si elle avait su l'existence vagabonde que pendant 6 années, allant du chapardage à la rapine, de la rapine à l'escroquerie, de l'escroquerie au vol pur et simple, avait mené celui à qui sa vie était liée, si elle avait connu surtout quelle part y avait prise à la mort de son parrain. Alexandre Tisserand avait dit la vérité en dénonçant son neveu. Mais combien il était déplorable que les affres de l'agonie, troublant son cerveau et sa main, l'eussent empêché de mieux préciser. C'était bien son neveu, en effet, qui était l'auteur du crime abominable. Mais ce neveu, ce n'était pas Jean, c'était Pierre Morenas. À bout de ressources, réduit au dernier degré de la misère, Pierre était alors revenu pendant la nuit à Sainte-Marie-des-Maux, dans l'intention bien arrêtée de faire main basse sur le pécule de son oncle. La résistance de la victime avait fait du voleur un assassin. L'aubergiste terrassé, il avait procédé à un pillage en règle, puis s'était enfui dans la nuit. De la mort de son oncle, qu'il supposait seulement évanoui, de l'arrestation et de la condamnation de son frère, il n'avait rien su. C'est donc en toute tranquillité qu'un an après son crime, et voyant diminuer son butin, il revint au pays, ne doutant pas qu'après tant de temps écoulés, il obtint aisément son pardon. Et c'est à ce moment qu'il connut la mort de son oncle et de sa mère et la condamnation de son frère. Il en fut tout d'abord accablé. La situation de son cadet, à qui pendant 20 ans l'avait uni une si réelle et si profonde affection, devint pour lui une source de cruel remords. Que pouvait-il cependant pour y remédier, sinon révéler la vérité, se dénoncer et prendre au bagne la place de l'innocent injustement condamné? Sous l'influence du temps, regrets et remords s'atténuèrent. L'amour fit le reste. Mais le remords revint quand la vie conjugale lui prit son paisible cours. De jour en jour, le souvenir du forçat innocent s'imposa davantage à l'esprit du coupable, impuni. Les années d'enfance s'évoquèrent avec une force sans cesse plus grande, et le jour vint où Pierre Morenas commença à rêver au moyen de délivrer son frère du boulet auquel lui-même l'avait rivé. Après tout, il n'était plus le gueux, dépourvu de tout, qui avait quitté Sainte-Marie-des-Morts pour chercher dans le vaste monde une introuvable fortune. Maintenant, le gueux était propriétaire, le premier de son village, et l'argent ne lui manquait pas. Cet argent ne pouvait-il servir à le libérer de son remords? Jean Morenas suivit des yeux M. Bernardon. Il avait peine à comprendre ce qui lui arrivait. Comment cet homme connaissait-il si bien les diverses circonstances de sa vie? C'était là un problème insoluble. Toutefois, qu'il comprît ou non, il fallait dans tous les cas accepter l'offre qui lui était faite. Il résolut donc de se préparer à fuir. Avant tout, il était dans la nécessité d'instruire son compagnon du coup qu'il méditait. Aucun moyen n'existait de s'en dispenser, le lien qui les enchaînait ne pouvant être rompu par l'un sans que l'autre s'en aperçût. Peut-être Romain voudrait-il profiter de l'occasion, ce qui diminuerait les chances de réussite. Le vieux forçat n'ayant plus que 18 mois de fer, Jean s'efforça de lui démontrer que pour si peu, il ne devait pas risquer une augmentation de peine.
Mais Romain, qui voyait de l'argent au bout de tout cela, ne voulait pas entendre raison et refusait obstinément de se prêter aux combinaisons de son camarade. Cependant, lorsque celui-ci parla d'un millier de francs payables sur-le-champ et d'une somme égale qui pourrait bien attendre le vieux à la sortie du bagne, Romain commença à ne plus faire la sourde oreille et à donner dans les idées de son compagnon de chaîne. Ce point réglé, il restait à décider du mode d'évasion. L'essentiel était de sortir du port sans être aperçu et par conséquent d'échapper aux regards exercés des factionnaires et des gardes chiourme. Une fois dans la campagne, avant que les brigands de gardes de gendarmerie fussent prévenus, il serait facile d'en imposer aux paysans. Et quant à ceux que l'espoir de la prime rendrait plus clairvoyants, ils ne résisteraient certainement pas à l'appât d'une somme supérieure. Jean Morenas résolut de s'évader pendant la nuit. Bien qu'il fût condamné à terme, il n'était pas logé dans un des vieux navires transformés en bagne flottant. Par exception, il habitait une des prisons situées à terre. En sortir eût été difficile. L'important était donc de n'y pas entrer le soir. La rade était à peu près déserte à 7 heures. Il ne lui serait sans doute pas impossible de la traverser à la nage. Il ne pouvait en effet songer à quitter l'arsenal autrement que par mer. Et la terre, une fois gagnée, il appartiendrait à son protecteur de lui venir en aide. Ainsi ramené par ses réflexions à compter sur l'inconnu, il résolut d'attendre les conseils de celui-ci et de savoir tout d'abord si les promesses faites à Romain seraient ratifiées. Le temps s'écoula lentement au gré de son impatience. Ce fut seulement le surlendemain qu'il vit réapparaître son mystérieux ami. Eh bien, demanda Monsieur Bernardon. Tout est convenu, monsieur, et puisque vous désirez m'être utile, je peux vous assurer que tout ira bien. Que vous faut-il? J'ai promis 2 000 francs à mon compagnon, soit 1 000 francs à sa sortie du bagne. Il les aura après, et 1 000 francs tout de suite. Les voici, dit Monsieur Bernardon, en remettant la somme demandée que le vieux forçat fit instantanément disparaître. Voilà, reprit le Marseillais, de l'or et une lime des mieux trempés. Cela vous suffira-t-il pour venir à bout de vos fers? Oh oui, monsieur, et où vous reverrai-je? Au Cap Brun, vous me trouverez sur le rivage, au fond de l'anse appelée Port Méjean. Vous la connaissez? Oui, comptez sur moi. Quand partirez-vous? Oh, ce soir à la nage. Vous êtes bon nageur? Oh, de première force. Eh bien, tout est pour le mieux. À ce soir donc. À ce soir. Monsieur Bernardon se sépara des deux forçats qui retournèrent au travail. Sans plus s'occuper d'eux, le Marseillais continua longtemps sa promenade, interrogeant les uns et les autres, et sortit enfin de l'arsenal sans s'être fait aucunement remarquer.